France Inter, le 18-20.
Tu garderas l'appartement, je passerai de temps en temps quand il n'y aura pas d'école et ce jour-là pour l'après-midi, je t'enlèverai Stéphanie. Voilà, dans les chansons, ça marche comme ça pour les divorces, c'est tranquille, souple. Dans la réalité, c'est parfois bien plus compliqué. Et puis aussi, les pères ne sont plus les mêmes, ils sont le plus souvent plus impliqués, plus participatifs dans la vie de leurs enfants, quand les juges, eux, confient plus volontiers les frères et les sœurs à leur mère. Fort de tout cela, pourquoi ne pas instaurer comme un principe la double résidence, garde alternée, une semaine, 15 jours, un système qui finalement n'est utilisé aujourd'hui que dans un divorce sur 5. Sauf que rien n'est jamais simple. L'idée a été débattue en commission des lois aujourd'hui et preuve que le problème est complexe, eh bien le texte a été largement bougé. On parle désormais de résidence de l'enfant au domicile de chacun des parents selon des modalités de fréquence et de durée déterminées par les parents ou par les juges. Donc une rédaction peut-être plus souple sans un principe d'égalité. Preuve encore une fois que le sujet intéresse et on le voit ici avec vos nombreuses questions au 01 45 24 7000 et c'est tant mieux, c'est à vous.
Fabienne Synthèse. Le téléphone
sonne. La première, c'est vous, Mounira. Bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonjour, merci de prendre ma question. Mon témoignage plutôt, c'est je suis en instance de divorce. On fait un divorce à l'amiable avec la nouvelle loi où on passe devant un notaire. Et voilà, on était un couple d'ingénieurs. J'ai laissé un peu ma carrière en berne pour m'occuper de mes enfants à mi-temps dans un premier temps, et ensuite j'ai suivi mon ex-mari à l'étranger pour sa carrière. Il a été brillant, il a très bien réussi, moi j'ai pas vraiment. Et donc il a voulu partir, très bien, et il a voulu prendre les enfants à mi-temps. J'ai refusé, d'une part parce que je pense que quand on a deux maisons, c'est qu'on n'a pas de maison. Et la deuxième chose, c'est que je doute toujours qu'il puisse gérer vraiment la moitié du temps les enfants comme je le faisais moi et je le faisais aujourd'hui. Et je m'interroge beaucoup de cette loi où on pose justement la même garde pour tout le monde par défaut. Je trouve que c'est au cas par cas. Chez nous, c'est plutôt moi qui me suis occupée des enfants. Chez d'autres couples, c'est plutôt le papa qui s'occupe. Et je vois pas pourquoi on uniformiserait la garde pour tout le monde. C'est des enfants, c'est leur bien-être avant tout. Ils ont rien demandé, les pauvres. Et je vois pas pourquoi du jour au lendemain, on se dit « Ok, c'est bon pour tout le monde. »
Merci Mounira, on a bien compris le sens de votre témoignage et de votre question. Alors cette loi n'existe pas encore, hein. Elle sera débattue le 30 novembre prochain. C'est pour ça d'ailleurs qu'au passage à la commission des lois, elle a été un peu modifiée, qu'elle le sera probablement aussi au moment de la discussion. Mais pour répondre à vos interrogations, Mounira, et toutes celles qui viendront dans l'heure qui vient, Philippe Latombe est avec nous. Bonsoir Monsieur Latombe. Justement, c'est vous le député MoDem de Vendée qui êtes auteur de cette proposition de loi donc sur la garde alternée. Bonsoir Françoise Brié.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Il y a une chose qui m'a marqué, Philippe Latombe, dans le témoignage de Mounira. Deux maisons, c'est pas de maison.
Les enfants ont deux parents. Ils avaient, et c'est ce qu'on a redit en commission tout à l'heure, il y avait un couple conjugal qui a conçu un enfant et il y a une séparation. Il n'empêche que le couple parental survit au couple conjugal. Donc la proposition que l'on fait, et ça répond à une des interrogations de l'auditrice de Mounira, c'est que ce n'est pas la proposition n'est pas une obligation et n'est pas une obligation une imposition. C'est une possibilité que doit examiner le juge en prenant en compte l'intérêt supérieur de l'enfant.
Mais une
à
possibilité qui existe déjà, donc vous voulez quand même qu'elle soit plus utilisée, parce que ça existe déjà. Alors c'est un divorce sur cinq, c'est pas beaucoup, mais ça existe.
L'idée, c'est qu'effectivement, le juge l'examine en premier, en voyant si c'est faisable. Alors il y a des cas d'exclusion qu'on a très clairement remis dans le texte aujourd'hui, qui sont tous les cas de violence, soit entre ex-conjoints ou envers les enfants. Et il ne peut pas y avoir de résidence alternée dans ce cas-là.
Et quand il y a, c'est ce que décrit Mounira, quand il y a inégalité dans la manière dont on s'occupe des enfants, en fait, clairement, Mounira s'en est plus occupé que son mari, est-ce que ça, c'est un motif ou pas?
Oui, c'est un motif, et on a laissé le juge aux affaires familiales comme pierre angulaire du dispositif, ça a été rappelé en commission, c'est remis de façon très claire dans le dispositif, le juge aux affaires familiales décide avec des arguments qui doivent être portés à la connaissance des deux En fonction des divergences qu'ils peuvent avoir.
Françoise Brier, quand vous écoutez le témoignage de Mounira, est-ce qu'on est effectivement typiquement dans un cas finalement assez classique où c'est la femme qui s'occupe plus des enfants et qui se dit qu'en résidence alternée, en double résidence, ce sera plus compliqué?
Oui, les chiffres sont là. C'est à 80% les femmes qui assurent les charges domestiques et qui souvent interrompent leur carrière pour s'occuper des enfants. Donc je pense qu'avant, effectivement, de mettre en place une telle proposition de loi, il faut aussi travailler en amont sur les inégalités dans les tâches domestiques, voilà, toutes les stéréotypes qui peuvent circuler. Ce qui est intéressant aussi dans ce témoignage, c'est que finalement, Mounira a aussi moins de ressources financières. Donc que va-t-il se passer dans le cadre des allocations familiale, de la pension alimentaire, en particulier pour certaines femmes qui sont déjà dans la précarité. Et puis je voudrais dire que déjà on a dans la loi le principe de résidence alternée. Ça fait partie des éléments qu'examine le juge aux affaires familiales et que très peu finalement de parents les demandent. Donc imposer à une majorité de parents pour finalement un petit nombre de pères qui n'ont pas pu obtenir la résidence alternée, voilà, je trouve que ce texte est beaucoup trop rapide. Pas assez dans l'examen et y compris des débats qu'on a eus depuis très longtemps sur cette question. On passe aujourd'hui un certain temps pour débattre de l'âge à partir duquel une mineure, dans le cadre des relations sexuelles, en tous les cas du viol et des agressions sexuelles. Et là, on va aussi, c'est un autre sujet, mais on prend le temps de débattre. C'est vrai que c'est un sujet grave, mais celui-là aussi est un sujet très grave. C'est un sujet très grave parce qu'il va mettre, il va bouleverser la vie d'un certain nombre de parents et surtout d'un certain nombre d'enfants. Et puis, la dernière question, c'est la question des violences, mais bon, je reviendrai un petit peu plus tard.
Et voilà, et on y viendra au fur et à mesure des questions. Philippe Latombe, vous pouvez répondre si vous voulez, on va prendre un
oui,
auditeur
parce que
juste après.
Ça participe d'une contre-vérité, ce que vous dites, madame, je suis désolé. Nous avons posé le principe de l'examen d'une option qui est la résidence alternée en priorité, mais ce n'est absolument pas une imposition, absolument pas une uniformité. Pour preuve, nous prévoyons dans le texte qu'une résidence alternée puisse être déterminée par le juge avec des modalités de fréquence et de durée qui sont adaptables au cas par cas par le juge aux affaires familiales. Donc il n'y a pas d'uniformisation. Il y a simplement la volonté de montrer qu'un enfant a deux parents, que la coparentalité est un moyen de pouvoir participer à la vie de l'enfant et à sa croissance dans de bonnes conditions. Et quand je parle de croissance, c'est pas simplement une croissance physique. Et pour répondre à votre argument sur la partie économique, il existe ce qu'on appelle la contribution économique à l'éducation de l'enfant, qui est aujourd'hui un barème qui est fixé par le ministère de la Justice et qui permet de compenser les inégalités et permettre à ce que l'enfant puisse bénéficier des mêmes conditions et du même niveau de vie chez les deux parents. Donc il n'y a pas de différence aujourd'hui économiquement liée à la résidence. Ça sous-entendrait qu'on met l'enfant comme étant un enjeu financier. Or, c'est pas du tout la proposition. Elle est simplement dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Françoise Brier, vous évoquiez les pères à l'instant. En voici un qui nous a appelé au 01 45 24 7000. Romain, bonsoir. Vous êtes le bienvenu sur France Inter. On vous écoute.
Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Monsieur Latombe et Madame Brier. Donc moi j'appelais pour parler de la résidence alternée. À moi, elle m'a été refusée il y a quelques mois de cela. Quand je me suis séparé, disons que je suis parti à 25-30 kilomètres de chez la maman de ma fille. J'avais un CDI et donc lorsque j'ai demandé la résidence alternée avec mon avocate, on m'a dit de me rapprocher. Donc chose faite, je me suis rapproché dans un périmètre d'environ 3-4 kilomètres. Avec des disponibilités, un CDI, une bonne situation, un appartement avec deux chambres. Enfin, j'ai suivi toutes les conditions. Mais la résidence alternée m'a été refusée. Et il n'y avait pas derrière de réel motif.
Mais c'est ce que j'allais vous demander, Romain. Qu'est-ce qui a marqué?
Alors, je n'ai pas mon jugement sous les yeux. Pour ne pas vous mentir, je n'ai pas le jugement sous les yeux. Mais donc la maman y était opposée. Moi, je voulais la résidence alternée. On m'avait demandé de faire un choix subsidiaire. C'est mon avocate qui m'avait demandé ça. Donc en choix subsidiaire, j'avais demandé un élargissement de DVH au cas où, mais que j'étais vraiment, en tout cas que je voulais vraiment la résidence alternée. C'était vraiment ce qui m'allait le plus. Mais la résidence alternée m'a été, en tout cas, refusée. Sur les papiers, si mes souvenirs sont bons, une bonne non jugement, il y a marqué que vu que ma fille a toujours vécu là-bas, elle a ses habitudes en gros et que ça la perturberait de venir à la maison, alors qu'aujourd'hui elle a 4 ans et tout se passe super bien. C'était il y a un an et ça s'est toujours bien passé, quoi.
Elle a 4 ans, votre fille, vous dites, Romain?
Tout, Tout à fait, oui.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Romain-Philippe Latombe. Est-ce qu'il faut fixer un âge? Est-ce que c'est peut-être là qu'il y a eu hésitation de la part du juge dans le cas de Romain? J'en sais rien, moi non plus, j'ai pas vu le jugement. Mais est-ce qu'il faudrait fixer un âge? Est-ce qu'il y a un âge au-dessous duquel c'est compliqué d'avoir deux maisons?
Alors, on n'a pas fixé d'âge pour la simple bonne raison que chaque cas est différent. Maintenant, il y a une certaine unanimité de la plupart des pédopsychiatres pour dire qu'avant l'âge de 3 ans, une résidence alternée n'est finalement que peu envisageable. Ensuite, la proposition que nous faisons est de dire que cette résidence alternée peut être modulable en termes de durée et de fréquence pour s'adapter aussi à la question de l'âge de l'enfant ou des enfants, et en tenant compte, bien évidemment, à chaque fois, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc je ne veux pas pouvoir répondre à l'auditeur en disant c'est normal ou pas normal. Il peut y avoir plein d'éléments qui font que il peut y avoir, très clairement, dans le dossier, des attestations de médecins, de psychiatres, de psychologues qui font que. Mais à chaque fois, c'est au juge de pouvoir le fixer. Par contre, dans la proposition, nous avons demandé à ce que les motivations soient bien inscrite par le juge pour justement éviter cette espèce de faible compréhension des jugements et qu'il n'y ait pas de surjudiciarisation ensuite des décisions des juges d'affaires familiales.
Françoise Brié, ce qui est sûr, c'est que si on regarde les chiffres, la résidence alternée est refusée dans 75% des cas quand elle est demandée par le père, mais que la mère n'est pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, peut-être, de faire en sorte que ce pourcentage bouge un peu, à minima?
Écoutez, moi, je ne dois pas avoir les mêmes chiffres, hein, puisque dans les chiffres que j'ai, qui sont donnés par le ministère de la Justice, si 18,8% des pères en font la demande, ils l'obtiennent à 17,3%. Donc, je pense qu'actuellement, c'est pour ça que je ne comprends toujours pas l'intérêt de cette proposition de loi. Ça veut dire que les magistrats vont devoir arguer des raisons sérieuses dont on ne sait pas très bien ce qu'elles sont, pour dire qu'ils ne sont pas, voilà, en faveur de la résidence alternée. Donc, sur cette situation de ce monsieur en particulier, je ne peux pas non plus me prononcer.
Plus de motivation de la part du juge, par exemple, éventuellement.
Oui,
est-ce qu'on peut imaginer demander au juge d'expliquer, d'être beaucoup plus clair dans ses refus éventuellement?
Je pense que ce sera un problème et ça veut dire que c'est un choix que veut devoir aussi se défendre un certain nombre de femmes, ou d'hommes d'ailleurs, de ne pas accepter la résidence alternée, donc d'être considérés peut-être comme des mauvais parents. Et puis moi je voudrais revenir sur les questions des violences parce que c'est un vrai problème dans ces situations. On a quand même nous des situations, déjà dans les situations de violence actuellement, malgré les textes de loi, il n'y a pas toujours une application de l'autorité parentale exclusive et de droit de visite et d'hébergement limité pour l'agresseur, des femmes et des enfants dans une bonne partie des situations, avec des résidences alternées qui sont accordées avec des femmes victimes de violences. J'ai encore un exemple là sur une femme qui n'a pas déposé plainte parce que elle pensait que dans les procédures civiles tout allait s'organiser. Elle a accepté sous pression de son conjoint d'avoir une résidence alternée. Aujourd'hui, elle est continuellement harcelée sur son lieu de travail et à travers son enfant. Et monsieur vient de demander en urgence la résidence de l'enfant à son domicile. Donc on voit que la résidence alternée, de toute façon, ne va certainement pas solutionner les questions de violence. Et je ne vois pas comment, dans le texte actuel, va permettre d'améliorer la situation qui est déjà extrêmement compliquée dans ces situations.
Philippe Latombe, quand il y a violence mais qu'il n'y a pas eu plainte, c'est là que ça devient évidemment compliqué. Quand il y a plainte, la question ne se pose même pas. Est-ce qu'effectivement, comme le décrit Françoise Brié, ça ne devient pas extrêmement complexe pour les femmes?
C'est un problème complexe. Ça, je le partage avec Mme Brié. En revanche, je ne partage pas son inquiétude quant à la proposition, puisque nous reprenons le dispositif existant et il n'y a pas de modification concernant les violences. Ça veut dire que lorsqu'il y a des violences, lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d'une demande et qu'il y a des soupçons, des suspicions, voilà. Mais la vraie problématique, elle n'est pas là.
Il faut que la violence soit avérée.
La vraie problématique, elle n'est pas là. Elle est certainement dans le fait qu'un certain nombre aujourd'hui de procureurs, par exemple, n'accepte plus les dépôts de main courante, qui étaient des signaux faibles qui pouvaient faire ensuite l'objet, lors des procédures devant les juges d'affaires familiales, d'un signalement, d'une présomption. Et aujourd'hui, on a des signaux faibles qui n'existent plus. Ça marche. On n'a pas changé le dispositif, Madame Brié, là-dessus. Il faut qu'on démystifie ce problème-là. On ne l'a pas changé. On a laissé les articles concernant les violences, c'est l'article 378 du Code civil. On a laissé l'article 373.2, alinéa 11 du Code civil. On ne les a pas touchés. Et on a bien remis les deux derniers alinéas du Code civil pour bien faire que lorsqu'il y avait un droit de visite et lorsque l'intérêt de l'enfant ou du conjoint et qu'il y avait un danger, le juge puisse utiliser des associations ou des lieux dans lesquelles il n'y ait pas de contact entre les ex-conjoints. Donc il n'y a pas de problème de violence supplémentaire proposé par ce texte.
Marion nous appelle. Marion, puisque tu as 15 ans, va se tutoyer. Et c'est bien d'avoir la vie d'un enfant aussi. On t'écoute.
Non, excusez-moi, il y a un petit malentendu. J'ai actuellement 30 ans.
Ah bah oui, donc on va pas se tutoyer, Marion, en même temps. Enfin, sauf si on se connaît sans le savoir. Mais donc vous avez vécu les gardes alternées à l'âge de 15 ans, en tout cas. Là-dessus,
voilà, oui.
D'accord, là-dessus, j'avais bon.
Malgré tout le respect que je dois à monsieur, j'entends ses arguments depuis ce matin et ça m'émeut beaucoup parce que je suis en profond désaccord avec ce qu'il dit. Le divorce de mes parents, donc autour de mes 15 ans, s'est fait dans les meilleures conditions matérielles possibles, hein, aucune violence. Il y avait une égalité totale dans la manière dont mes parents s'occupaient de nous, dans l'éducation. Mais par contre, j'ai très très mal vécu de vivre dans les valises pendant des années. Il m'a vraiment manqué un chez-moi, un point d'ancrage. Et je reste persuadée que c'est très dangereux pour la construction des enfants que ça devienne une norme, cette garde alternée. C'est très confortable pour les parents, je suis d'accord. C'est déjà pas mal pour des enfants d'avoir des parents bien dans leur peau. Mais pour leur construction, je pense que c'est vraiment pas le top.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Marion, donc, qui a été en garde alternée à l'âge de 15 ans et qui n'a pas 15 ans du tout. Philippe Latombe, ça rejoint ce que disait la première auditrice tout à l'heure. Mounira, deux maisons, pas de maison. Et c'est aussi le ressenti de Marion.
Plusieurs choses. J'aurais bien voulu pouvoir poser la question à Marion de savoir si, je ne sais pas si elle nous entend, si dès le début, lorsque ça s'est produit, vous avez ressenti cette problématique ou c'est venu plus tard?
Dès le début.
Et parce que dans les procédures aujourd'hui, il n'y a pas de changement, vous avez la possibilité d'être entendu par le juge. Vous avez la possibilité de, à partir de 13 ans, le juge se pose à chaque fois la question d'entendre l'enfant. Donc, vous n'auriez pu le dire à l'époque?
Excusez-moi, mettez-vous aussi à la place de l'enfant. C'est très très compliqué à un moment donné de devoir prendre parti pour l'un des parents quand l'enfant n'a rien à reprocher. J'avais rien à reprocher à aucun de mes parents. Simplement, moi, j'étais mal. C'est très très difficile de prendre parti dans ces cas-là.
L'idée n'est pas de changer les règles, de changer ça. S'il y a aujourd'hui des conditions matérielles et une souffrance d'un enfant qui peut se matérialiser par plusieurs choses, des discussions qu'il a avec ses parents, surtout quand dans votre cas il n'y a pas forcément de conflit, des résultats scolaires qui commencent à décliner, il y a la possibilité de revoir le système de résidence alternée aujourd'hui et ça sera la même chose demain, si le texte est adopté. Donc c'est juste une priorisation de l'examen d'une solution. Mais ça ne veut pas dire qu'on impose cette solution.
Ce que dit Marion et qu'on comprend bien, c'est que on est même à 15 ans où on a le droit de parler, où on est déjà ado, dire je préfère vivre uniquement avec maman ou uniquement avec papa, c'est considérer que l'autre remplit pas son rôle. C'est compliqué de mettre ça, Françoise Brier, peut-être sur les épaules de l'enfant, en fait, au final, parce que c'est lui qui finit par prendre cette décision. Là, ce qui est quand même assez terrible.
Tout à fait, c'est le conflit de loyauté et c'est souvent ce qui est extrêmement compliqué lorsque les enfants sont entendus, bien sûr. Et effectivement, plus les enfants sont jeunes, plus la question de la résidence alternée se pose au regard de leur développement, de leur équilibre, de leur sécurité. Donc ça, on est tout à fait inquiet aussi sur cette situation. Moi, je voudrais revenir aussi encore aux situations de violence parce que ce que vous avez décrit tout à l'heure, quand on dépose... Non, parce que c'est important.
Allez-y.
Je suis dans l'application. J'ai vu ce qui se passait sur le terrain et donc je vois bien, on sait très bien quand on dépose une ordonnance de non-conciliation, on ne peut pas faire de grief dans l'écrit. Les audiences durent entre 7 et 17 minutes en moyenne, ça va très vite. Il faut que les personnes apportent des éléments de preuve et c'est pas seulement la plainte ni la main courante. Il faut souvent avoir des condamnations et le temps du pénal n'est pas le temps du civil. Il faut avoir des attestations et c'est souvent extrêmement compliqué de démontrer les violences quand il n'y a pas eu effectivement des violences avérées et condamnées. Donc tout ça déjà ça mérite d'être amélioré et d'être creusé et rajouter encore cet élément alors que je le répète on a déjà la résidence alternée dans la loi qui s'applique régulièrement quand les parents le demandent. Je ne comprends toujours pas. Je pense qu'on est en train effectivement d'enfoncer encore un certain nombre de situations et je reviens aussi sur la question économique. Je pense que ça va mettre effectivement des femmes en difficulté économique beaucoup plus que c'est encore le cas actuellement, malgré effectivement, on est quand même dans des situations de non-paiement de pension alimentaire, etc. Et là-dessus, on avait aussi un vrai travail à faire. Donc je pense qu'il y avait d'autres urgences que cette proposition.
Philippe Latombe, concrètement, comment ça se passe? Est-ce que les allocations sont divisées en deux à partir du moment où il y a deux maisons dans ces cas-là?
pas toutes. Les allocations familiales, oui. La partie des allocations qui sont hors allocations familiales ne sont pas partagées. Et je répète, il y a aujourd'hui, et c'est utilisé par les juges des affaires familiales, ce qu'on appelle la contribution économique à l'éducation de l'enfant, qui a pour but de compenser. Et le juge aux affaires familiales peut parfaitement compenser une baisse d'allocations familiales d'un côté ou de l'autre, en fonction de la résidence. Et puis, pour revenir à ce que vous disiez, les violences, on n'a rien changé dans l'article. Ce que vous dites aujourd'hui dans votre argumentation, c'est ce qui existe aujourd'hui, et il n'y a pas de changement avec la proposition. Il faut qu'on travaille sur les violences. On travaille sur les violences. C'est pas le sujet du jour, mais on a parlé des violences faites aux enfants avec et aux femmes avec le projet de loi qui va voir le jour en fin d'année 2017 ou début d'année 2018 avec la discussion sur l'âge du consentement. Enfin, mais aujourd'hui, cette proposition n'est pas du tout incitante à la violence et on ne réglera pas tous les cas par de la résidence alternée. C'est pour ça qu'on laisse un immense choix au juge, mais on lui demande, dans l'esprit, de se dire que dans un certain nombre de cas, il faut que les deux parents participent à la vie de l'enfant et que l'enfant a le droit à avoir une vie avec ses deux parents, qu'on puisse regarder si la résidence alternée, de manière non égalitaire parfois, est la bonne solution. Il l'examine, c'est faisable, les domiciles sont proches, il n'y a pas de transfert d'affaires, de cartables lourds, de choses comme ça, ça ne pose pas de soucis. Pourquoi on ne le ferait pas ? Dans le cas de Marion, les deux parents étaient d'accord, ça n'aurait rien changé. Donc de toute façon...
Mais Philippe, pardonnez-moi, je ne comprends pas bien pourquoi on fait un projet de loi si on ne change rien en fait.
Ce n'est pas qu'on change rien, c'est qu'on priorise aujourd'hui devant le juge aux affaires familiales en disant si l'un des deux parents demande la résidence alternée et que l'autre s'y oppose, on examine les choses de façon posée et claire, on dit au juge vous décidez avec des éléments qui ont été posés et vous motivez la décision. Ce qui permettra d'éviter d'avoir cette surjudiciarisation de « j'ai pas compris pourquoi, je l'avais demandé, je l'ai pas eu, je fais des recours, on se déclare la guerre encore plus qu'avant, alors que ça mérite vraiment pas de le faire ».
François nous appelle au 01 45 24 7000. François, soyez le bienvenu, on vous écoute, allez-y.
Oui, bonjour.
Bonsoir François, allez-y.
Bonsoir. Alors moi, en fait, je fonctionne en résidence alternée depuis que mes enfants ont un an et deux ans. C'est-à-dire depuis quasiment leur naissance. Ils ont tous les 13 maintenant. Et en fait, la particularité, c'est qu'ils sont partis en 2012 donc dans la Drôme. Moi, j'étais en région parisienne. Mm-hmm. Et du coup, j'ai suivi en fait le mouvement, enfin la garde alternée, et ce qui me conduit en fait à faire un déplacement toutes les semaines. Donc je fais la semaine en région parisienne et ensuite la semaine suivante dans la Drôme avec eux.
D'accord. Et comment ça se passe, François, pour vous ? J'imagine que c'est compliqué à gérer pour vous.
Alors, mais c'est compliqué, oui. Voilà. Donc il faut évidemment aménager le temps de travail. Bon, je fais du télétravail, donc ça facilite les choses. Ouais. Après, reprendre une solution, donc au niveau financier, évidemment, ça coûte beaucoup plus que de rester tranquillement chez toi. Je donne pas mal de à la SNCF, donc elle est contente avec moi.
Et vos enfants vont bien ?
Et les enfants vont bien, voilà. Et du coup, la question que je me posais, c'était qu'est-ce qui se passe en cas de déplacement de l'un des parents pour convenance personnelle ? Parce que nous, en fait, on a été en résidence alternée dans la région parisienne, et à un moment donné, leur mère donc a voulu déménager.
Et voilà. Alors, ce qui est le cas dans n'importe quel type de divorce par ailleurs quand l'un décide de partir, mais effectivement François a raison, quand on est en résidence alternée, ça devient nettement plus difficile, Philippe Laton, parce qu'il faut que les parents restent toujours géographiquement dans des zones proches pour que ça fonctionne en fait.
Clairement, à 300 km d'écart, c'est pas possible. Il faut pas que les enfants aient des changements d'habitude trop importants, il faut qu'ils restent dans la même école. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il faut réexaminer la situation. C'est faisable d'avoir un déplacement comme vous l'avez fait. Vous avez fait ce choix.
C'est un choix François le fait parce qu'il ne veut pas voir ses enfants uniquement le week-end.
Mais François a fait ce choix et c'est parfaitement respectable de faire ce choix. Et ça montre bien l'implication qu'il souhaite avoir auprès de ses enfants. Et si ses enfants, et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que si les enfants vont bien, si les enfants sont satisfaits de cette situation-là, c'est très bien. C'est pour ça qu'est faite la résidence alternée, c'est pour ça qu'on voudrait la regarder en première option. mais ça ne veut pas dire qu'il faut la mettre dans tous les cas. Là encore, l'éloignement est un motif de non-résidence alternée.
Cette question d'Annie sur franceinter.fr, une garde alternée n'est possible que dans les grandes villes. Comment font ceux qui habitent à la campagne ?
La même chose, quand on est à 5 km en campagne, mais qu'on est sur les mêmes lignes de car pour aller à l'école, ou que les parents peuvent s'organiser pour que l'enfant ne passe pas et ne change pas d'école, ça peut s'envisager. Si en revanche on est sur 40 km et que c'est complètement impossible et que ça ferait que l'enfant se lève à 5h du matin pour aller à l'école, là ça l'est pas. Et le juge aux affaires familiales tient compte de ces éléments-là et tiendra toujours compte de ces éléments-là.
Françoise Brier, tiens, écoutez cette question aussi sur franceinter.fr. Et plutôt que ce soit les enfants qui changent de domicile, pourquoi ne pas envisager que ce soit les parents qui alternent avec un seul domicile qui serait celui des enfants ?
Oui, ça, effectivement, il y a des situations comme celle-là. Il faut vraiment, et nous, on est dans le cadre de résidences alternées qui fonctionnent, qui sont dans le choix des parents. Ça peut être effectivement la meilleure solution, mais il faut évidemment avoir les moyens de le mettre en place. Et il faut un accord entre les parents, évidemment, très important pour que ça puisse fonctionner. Mais on connaît effectivement les mêmes qui font les valises
une fois par semaine.
Et je pense qu'effectivement, pour les enfants, c'est certainement beaucoup plus stabilisant. Mais voilà, ça doit être une petite minorité de personnes qui peuvent effectivement assumer cette situation.
La vraie difficulté de cette Philippe proposition Platon, reposerait dans la recomposition des familles. Comment faire quand les deux parents ou l'un des deux parents a reconstitué un couple, éventuellement a eu des enfants avec une autre personne? Et là, en cela, la résidence alternée est une solution aussi pour permettre à ce que les enfants ou l'enfant puissent avoir du temps avec l'un et sa nouvelle famille, éventuellement ses nouveaux frères et sœurs, enfin demi-frère, demi-sœur, et même éventuellement de l'autre côté. Et la résidence alternée est quand même un élément, quand ça se passe bien, qui permet une reconstruction des personnes au niveau relationnel, au niveau économique, au niveau ne serait-ce qu'amoureux, parce qu'il y a la possibilité de recréer éventuellement un couple beaucoup plus facilement, parce qu'on n'a pas les contraintes au quotidien tout le temps.
Allez, bonsoir Malo.
Bonjour.
Salut, t'as 11 ans Malo, raconte-nous comment ça se passe pour toi et comment ça va.
Alors moi, mon père habite en Bretagne et ma mère à Marseille.
Ah.
Et du coup, je reste avec mon père pour aller à l'école et je vais voir ma mère pendant les vacances.
Uniquement les vacances, donc pas les week-ends.
Non, c'est trop loin.
Ouais. Et du coup, ça se passe bien? C'est compliqué pour toi? Est-ce que tu préférerais à choisir les avoir l'un à côté de l'autre ou en tout cas à deux rues de distance ou pas?
Moi, j'aime bien comme ça parce que quand ils étaient garde alternée, ils discutaient et puis des fois ça finissait mal. Et du coup, je préfère un peu comme ça.
Et Malo, toi qui as 11 ans, donc je comprends que ta mère a déménagé ou ton père a déménagé. L'un des deux, en tout cas, ton père a déménagé. Est-ce que c'est toi qui as choisi la résidence de ton père, de rester avec ton père, ou est-ce que ça s'est passé en bonne et de diligence entre tes parents?
Alors, c'est mon père. Moi et mon père, on n'aime pas vraiment Marseille. Et du coup, mon père, il a décidé d'habiter en Bretagne, comme on avait déjà une maison, on a hérité. Et du coup, nous deux, on a décidé d'aller habiter là-bas, et la juge était d'accord.
Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
Voilà.
Et merci pour ton témoignage, Malo. Françoise Brier, est-ce qu'il y a, j'ai cette curiosité, on parlait d'âge légal tout à l'heure, est-ce qu'il y a un âge auquel on doit faire confiance à l'enfant, qui sait exactement ce qu'il veut en cas de divorce ?
C'est compliqué, ça dépend vraiment des situations. Je pense qu'un enfant, oui, au-dessus de 7 ans, peut déjà commencer à s'exprimer. Bon, en général, ils sont pas autorisés, effectivement, à donner leur avis devant les juges. Mais il y a aussi les avocats pour enfants aussi qui peuvent aussi intervenir. Je pense qu'on est vraiment là aussi, ça peut être du cas par cas en fonction de la maturité de l'enfant, de son histoire et de ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que pour un enfant en dessous de 10 ans, voilà, ça peut être extrêmement compliqué d'exprimer toujours par rapport à ce conflit de loyauté qui peut exister pour lui. Et puis par ailleurs, c'est effectivement difficile pour lui de pouvoir expliquer la situation au domicile, surtout lorsqu'ils ont été soumis à un silence obligé.
Question pertinente sur franceinter.fr. Quel est le mal social de l'époque? C'est le chômage. Quelle solution est généralement recommandée pour trouver un job? La mobilité. Or, la mobilité est interdite en cas de garde alternée. Et ça, Philippe Latombe, c'est un argument. C'est très compliqué.
C'est effectivement très compliqué. on ne pourra pas traiter cette particularité-là sans regarder chaque fois, à chaque cas, ce qui peut se passer. Vous le disiez tout à l'heure, à ce moment-là, on a plus de chances de retrouver un travail quand on est dans une grande ville. Ça veut dire qu'on va cantonner la résidence alternée à la grande ville. Non, c'est au cas par cas. C'est à chaque fois l'examen du dossier. Maintenant, c'est faisable et donc le juge peut le regarder en bonne intelligence avec les parents, le leur proposer, voir s'il y a des aménagements. Si ça ne l'est pas, et s'il faut déménager, on revient au cas qu'on avait évoqué tout à l'heure, il y a un déménagement et on revient sur la résidence. Voilà, pour revenir sur les enfants, il y a un âge quand même légal qui est prévu par les juges affaires familiales pour les entendre, c'est à partir de 13 ans. À partir de 7, il y a la possibilité de le faire via des dispositifs très particuliers, c'est-à-dire que l'enfant va voir un avocat, l'avocat entend l'enfant, il y a un dispositif de psychologue qui vérifie que l'enfant a une capacité et une maturité. Donc ça existe, on peut le faire et il faudrait aussi, parce que la proposition de loi, elle est vraiment dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Il faut qu'on écoute les enfants et qu'on écoute ceux qui veulent la résidence alternée. S'ils ne la veulent pas, ou si l'un des deux parents s'estime pas capable de gérer la résidence alternée, ce qui est ce que vous disiez sur la partie, par exemple, du chômage, eh bien ça ne se fait pas.
Jeanne nous a appelé au 01 et nous appelle au 01 45 24 7000. Jeanne, soyez la bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Oui, bonsoir tout le monde. Voilà, moi je trouve justement, au contraire, je trouve ça très très bien de favoriser d'abord les gardes alternées comme solution, quand les deux parents le souhaitent, bien sûr. Hein. Parce que je me demande si au-delà de l'intérêt des enfants, le problème ne vient pas aussi du fait qu'on continue à considérer que l'enfant est d'abord de la responsabilité de la maman. Et je trouve ça un peu dommage parce que en fait, on peut pas à la fois demander au père de tenir pleinement leur place dans l'éducation des enfants et quand le couple ne va plus, de les exclure. Voilà, donc j'ajoute que je suis grand-mère de 3 petits-enfants qui sont élevés sous le mode de la garde alternée depuis pratiquement 3 ans, que la plus jeune avait 4 ans quand ça a été mis en place, que dans un premier temps, ils étaient dans leur logement d'origine pendant une année. Et que ben maintenant ils ont 2 logements séparés et que ça se passe pas si mal. Et qu'en plus les garçons, les deux aînés, on leur avait demandé ce qu'ils en pensaient quand le jugement a été porté. Ils souhaitaient. Enfin, alors évidemment on peut mettre en question le fait que c'est difficile de leur demander, mais ils souhaitaient que ça continue comme ça. Voilà. Et puis un dernier truc que je voudrais dire.
Allez-y.
Je pense qu'il est très très difficile. Quand on veut participer à une action éducative vis-à-vis d'un enfant, c'est très difficile si on ne le voit qu'un week-end sur deux ou si on le voit au moment des vacances. Je ne vois pas très bien comment on peut participer à l'éducation de ses enfants en les voyant seulement une fois de temps en temps.
Jeanne, rapidement, voilà. Quand vous dites que ça se passe pas si mal pour vos petits-enfants, pas si mal, ça veut dire quoi ? Pourquoi c'est pas ça se passe très bien en fait.
Bah ça se passe bien, mais bon les tiraillements entre le couple d'origine il est toujours là, je veux dire, hein, y a pas de ça se passe bien parce que pour les enfants ça se passe bien, je pense vraiment bien, mais ça résout pas tous les problèmes du couple d'origine. Hein. Mais je crois pas que les enfants habitant chez un de leurs parents ça aurait été mieux hein, de ce point de vue-là.
Merci beaucoup Jeanne pour votre témoignage. Françoise Brié, je sais bien que vous êtes de la Fédération Nationale Solidarité Femmes et quand Jeanne nous dit que peut-être qu'on oublie parfois un peu le père. Hein, c'est à vous que je pose la question sciemment.
Je pense que nous, on n'est pas du tout opposés, voilà, au contraire, au partage des tâches domestiques, à voilà tout ce qui est, tout ce qui ferait une égalité réelle, en tous les cas pour les enfants. Et au contraire, il faut effectivement que les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation de leurs enfants. Mais je ne pense pas que la résidence alternée soit le pansement qui va régler ces questions de société et ces questions de fond. Et d'autant que, comme je l'ai déjà indiqué, elle existe déjà dans la loi. Et puis, je pense que la résidence alternée, elle n'est pas là non plus pour gérer les conflits, pour résoudre effectivement lorsqu'il y a un conflit entre les parents. Voilà, on est au contraire, elle peut au contraire amplifier le conflit ou la violence à un moment donné.
Philippe Laton, mais il y a un petit côté jugement de Salomon, effectivement, 50-50.
Alors, c'est pas du 50-50. Je reviens dessus encore. C'est pas forcément égalitaire. Et c'est c'est pas du tout l'objectif. L'objectif est de promouvoir la coparentalité, c'est-à-dire que les deux parents participent à l'éducation de l'enfant. Participer à l'éducation de l'enfant, l'auditrice vient de le dire, c'est d'abord et surtout d'y passer du temps avec lui, et passer du temps de bonne qualité. Quand on passe du temps un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, il y a quand même un risque à un moment ou un autre que ce parent qui est sur cette fréquence-là soit un parent plutôt loisir et ne participe pas à des actes qui sont fondateurs pour l'enfant, qui sont la participation à un certain nombre d'actes, notamment
oui,
éducatifs,
les devoirs,
l'école, les loisirs, enfin les sorties pendant la semaine, les activités culturelles du mercredi par exemple. Il y a tout ça et on n'est pas en train de dire que cette proposition va être le remède à tout, c'est vraiment pas ça. C'est de remettre la coparentalité dans l'éducation de l'enfant, même en cas de séparation.
Et pour les situations d'abandon de famille aussi, comment va-t-on gérer ces situations où effectivement le père n'est plus présent auprès des enfants? Voilà, comment va gérer cette
situation? Cette proposition n'a pas à gérer cette situation, madame, parce que si jamais l'un des deux parents ne veut pas et ne s'estime pas capable, il ne peut pas.
Voilà, ben écoutez, tout ça sera débattu, en tout cas à l'Assemblée nationale, ce sera le 30 novembre,
le 30.
Donc c'est à la fin de la semaine.
C'est jeudi prochain.
Voilà, jeudi prochain, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé au téléphone sonne. Merci à vous tous qui nous écoutez pour ces très nombreuses questions et à demain.